France Inter.
Aujourd'hui, agroécologie, un monde sans pesticides, raconté par
Pierre Veil, ingénieur agronome et docteur en biologie santé.
Et Pierre Girard, journaliste scientifique spécialisé sur l'agroécologie.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il y a des années, dans une ferme de l'ouest de la France, un éleveur n'en pouvait plus. Ses vaches tombaient malades les unes après les autres. Mamites, boiteries, infections. Le vétérinaire passait tous les deux jours, les ordonnances s'allongeaient et les factures aussi. Et puis chaque année, au printemps, un phénomène étrange se produisait. Dès qu'il ouvrait la barrière du pré, les vaches se précipitaient dehors comme attirées par quelque chose d'essentiel. Elles se mettaient à brouter l'herbe nouvelle, grasse, encore humide de rosée. Et en quelques jours, elles allaient mieux, le poil leur devenait brillant, le lait plus doux, le beurre plus jaune. Lucien réalisa que ces bêtes tombaient malades non pas à cause d'un virus ou d'un microbe, mais parce qu'on avait appauvri leur nourriture. Des années de maïs, de soja importés, de simplification à outrance, tout cela avait dévitalisé les prairies, les sols et jusque dans le lait. Alors Lucien a changé. Il a remis des légumineuses dans ses champs, du trèfle, de la luzerne, du sainfoin, du lin, de la féverolle. Il a réappris à écouter la terre, à varier les cultures, à nourrir le sol plutôt que la plante. Et petit à petit, ses vaches se sont rétablies, les visites du vétérinaire se sont espacées et les antibiotiques ont disparu de la grange. Aujourd'hui encore, au retour du printemps, le troupeau se presse contre la barrière avant même que l'éleveur ne l'ouvre. En restaurant la diversité de ses prairies et en redonnant de la vie à ses sols, Lucien a simplement réactivé les défenses naturelles de son écosystème. Plus besoin de pesticides pour protéger des plantes qui se défendent seules, plus besoin d'antibiotiques pour soigner des animaux qui ne tombent plus malades. Cette histoire nous raconte qu'une autre agriculture est possible, celle qui soigne avant de détruire, celle qui nourrit sans empoisonner et qui retrouve par exemple dans un brin d'herbe la promesse d'un monde plus vivant.
Pour ce producteur de betteraves sucrières, l'année 2020 tourne à la catastrophe.
En 30 ans de production de betteraves, j'ai jamais vu des betteraves aussi jaunes. Donc on s'attend à une perte de 40% de rendement. Ce produit-là, on l'utilisait pendant plusieurs années et on n'a pas eu de dégâts de jaunisse.
En agriculture bio, on arrive à cultiver et avoir des rendements corrects en utilisant par exemple les coccinelles qui vont manger les larves des pucerons, qui vont manger les pucerons eux-mêmes.
Trop coûteux, répondent les producteurs de betteraves à sucre, les consommateurs se détourneraient du marché français.
Extrait d'un documentaire de TF1 donc en 2020. Pierre Girard et Pierre Veil, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Un monde sans pesticides est-il possible alors que cet été a été marqué par le débat autour de l'acétamipride, ce pesticide de la famille des néonicotinoïdes interdit en France depuis 2018 mais toujours autorisé ailleurs en Europe et que la loi Duplon voulait réautoriser dans notre pays. Cette polémique du coup a relancé une question de fond. Peut-on nourrir le pays tout en sortant de notre dépendance aux produits phytosanitaires? Eh bien vos deux ouvrages apportent des réponses à la fois scientifiques, humaine et concrète sur cette question. Pierre Veil, vous avez publié l'année dernière chez Actes Sud Une seule santé, enquête sur les sols où nos maladies prennent racine. Et Pierre Girard, cette semaine, sort votre livre Au rythme de la terre, nouvelle voie pour cultiver le vivant, chez Jean-Claude Lattès. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si dans vos parcours respectifs, il y a eu un moment particulier qui vous a fait prendre conscience que les pesticides n'étaient pas un simple outil, mais le symptôme d'un système profondément déséquilibré. Pierre Girard.
Oui, parce que moi, je me suis rendu compte sur place dans beaucoup... Je me suis rendu dans pas mal de pays d'Europe pour aller voir les alternatives aux pesticides sur des fermes. J'ai vu plus de 200 fermes en France et en Europe, où on se posait la question de changer de vocabulaire, de partir de la logique de pesticides, donc de tuer ce qu'on ne voulait pas voir dans les parcelles agricoles pour aller vers l'ère du biomimétisme et de l'imitation du vivant. Et en me rendant compte que finalement, les agriculteurs, les agricultrices qui vivaient cette révolution agricole dépensaient moins et produisaient plus sainement tout en faisant des produits qui étaient très abordables pour la population, je me suis rendu compte que c'était la voie à suivre, et l'unique voie qu'on peut suivre pour s'inscrire dans une démarche où on produit sans épuiser les ressources et sans détruire la terre.
Et vous, Pierre Veil, cette question des pesticides?
Moi, je suis beaucoup plus vieux que vous. Hein. Donc, moi, je suis un pur produit du monde de l'enseignement agricole et agronomique des années 70. Et franchement, ces questions-là, on ne se les posait pas. Moi, je dis souvent que je préférais les cours de fertilisation aux cours de pédologie, parce que c'était plus simple. Il y a une certaine simplicité avec la chimie.
C'est quoi la pédologie?
La pédologie, c'est la science du sol, mais c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué, alors que la fertilisation, c'est très simple. La biologie, c'est toujours plus compliqué que la chimie. Donc je pense qu'il faut des petites révolutions culturelles, et la mienne, elle a commencé avec des agriculteurs dans les années 80 qui labouraient pas. Ça, c'était une vraie remise en cause. Mais pourquoi tu laboures pas? Je laboure pas parce que à court terme, je gagne quand je laboure, parce que je minéralise, je tue les mauvaises herbes, mais à long terme, je vais enlever de la fertilité et de la santé à mes sols. Et me dire ça dans les années 80, on raisonnait plutôt à l'année plutôt qu'à 10 ans, ça a été un vrai changement. Puis il y a eu Lucien que vous évoquiez tout à l'heure.
C'est ça, c'est vous qui le citez dans votre livre,
oui.
Avec ces vaches.
C'est ces gens-là, c'est ces agriculteurs qui raisonnaient, ils étaient éleveurs ou ils étaient juste céréaliers, mais ils raisonnaient à 10-15 ans. Et cette logique de long terme m'a vraiment impressionné. Je me suis dit qu'il fallait sortir de ce monde de l'immédiateté, de la chimie, ouais, à court terme.
Et ce qui est bien, c'est que ce monde existe, et Pierre Gérard, vous en êtes la preuve, puisque vous l'avez dit, enquêté dans plus de 200 fermes, avec donc des paysans et des paysannes qui travaillent avec d'autres alternatives, précisément.
Avec d'autres alternatives, vous avez parlé du problème de la betterave sucrière, qui est un des problèmes les plus complexes, puisqu'on veut remplacer les néonicotinoïdes, et que pour les remplacer, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule solution, mais une combinaison de solutions, l'observation très fine du vivant. Mm-hmm. Ça veut dire que les agriculteurs et les agricultrices vont devoir observer très finement ce qui se passe sur leur parcelle, descendre du tracteur plus souvent. Et pour la betterave, par exemple, j'ai vu des essais sur des petites billes odorantes qui signalent aux insectes qu'on ne veut pas voir, justement, sur la betterave, les pucerons qui sont à l'origine les vecteurs de ce virus de la jaunisse, qui doivent aller voir ailleurs, se servir en légumes ou en végétaux sur d'autres parcelles que celles qui produisent de la betterave sucrière.
On va en parler, mais évidemment, ce type d'alternative, elle se fait sur des échelles aussi plus petites, peut-être, que sur de grandes exploitations. Pierre Veil, le cas de l'acétamipride, qui a vraiment été au cœur des débats pendant le printemps et cet été, qu'est-ce qu'il raconte, en fait, du système agricole aujourd'hui?
Mais il raconte quelque chose qui ne relève pas uniquement du monde agricole, c'est toujours cette logique d'immédiateté. L'autre Pierre la disait, c'est plus compliqué, il faut descendre du tracteur, etc. Dans le train, là, en venant, je lisais un truc sur, je fais un grand écart à la santé humaine, sur ces nouveaux médicaments là, pour l'homme, qui combattent le diabète et l'obésité, qui marchent très bien.
Oui.
Je me disais, c'est incroyable, on va pouvoir manger n'importe quoi et puis prendre un médicament qui va t'empêcher d'avoir le diabète et puis l'obésité. Et la culture de la prévention, de faire attention, c'est pas compliqué, la nutrition, qu'il s'agisse des sols, des plantes, des animaux ou des hommes. Manger varié, équilibré, ils écrivent au PNNS, varié, équilibré, c'est vrai pour les sols, faut du temps avant de revenir sur une parcelle de betterave. Si tous les ans on fait les mêmes cultures, si on fait des cultures de printemps qu'on alterne avec des cultures d'hiver, si on varie les cultures, on va donner moins d'espace pour se développer, moins d'opportunités pour les ennemis des cultures. Ça peut être des pucerons, ça peut être des mauvaises herbes, etc., pour se développer. Donc, il faut revenir à de la biologie. Et la biologie, c'est plus compliqué. Donc, cette histoire qu'il s'agisse du médicament contre l'obésité qui se substitue à bien manger et faire de la prévention, ou qu'il s'agisse de lutter contre le puceron des betteraves, je crois qu'on vit dans un monde où il faut se reposer la question de la complexité.
Mais c'est compliqué quand on a, évidemment, pour des agriculteurs engagés beaucoup de financement sur des exploitations particulières, de remettre en cause aussi tout un système comme ça du jour au lendemain.
Ils y arrivent. Moi, je dis souvent que je souris parce que je pense qu'effectivement, là, un autre monde est possible. Il est possible, on l'a créé. Pour qu'il soit possible, il faut aussi donner un débouché à ces agriculteurs qui produisent autrement. Des systèmes robustes, ce monde agroécologique de demain, c'est un monde qui fera pas les mêmes rendements qu'avant, mais qui aura moins de risques qu'avant. C'est pas une année, je gagne beaucoup parce que le prix du blé est très cher et puis le prix des engrais est très bas. C'est vrai, mais l'année d'après, le prix du blé peut baisser, le prix des engrais peut monter. Si tu consommes moins d'intrants, si tu investis moins dans la mécanisation, dans le gros tracteur qui va tout défoncer, tu gagnes moins. Mais sur 10 ans, 15 ans, encore une fois, c'est raisonner à long terme, c'est possible. Et puis, il faut assurer un marché aux gens qui produisent mieux. Il faut que la main qui tend en produisant mieux soit saisie par des gens qui ont envie d'acheter un peu plus cher. Pas beaucoup plus cher, mais un peu plus cher.
Pierre Girard, sur le nombre de paysans que vous avez rencontrés, est-ce que certains continuent à utiliser des pesticides par habitude ou par peur de tout perdre, justement? Parce qu'il y a une dépendance aussi presque à la fois économique mais psychologique à ces produits phytosanitaires.
Alors, parmi ceux que je suis allé rencontrer, c'est plutôt des pionniers, des pionnières. Donc, ils ne continuent pas par habitude, même s'il y a cette habitude que je vois autour de moi et autour de leur ferme. Il y a d'autres fermes qui continuent par habitude. Mais il faut savoir quand même que c'est pas facile de faire cette révolution pour aller vers le zéro pesticide ou vers la bio. Ça demande des changements vraiment très importants d'habitude, justement. Mm-hmm. Et surtout, c'est coûteux. Il faut se rappeler que acheter un produit phytosanitaire, un pesticide, ça coûte de l'argent aux agriculteurs et aux agricultrices, donc ils ne le font jamais par plaisir. Donc je me rends compte aussi, je pense par exemple à Sarah Singla, que je suis allé voir en agriculture de conservation des sols. Là, c'est un exemple d'une personne qui est pionnière et qui se pose la question de la santé de ses sols, de la santé du vivant sur ses parcelles, et qui continue aujourd'hui encore à utiliser du glyphosate pour désherber ses parcelles avant de semer. Donc c'est un cas particulier, mais on sait aujourd'hui qu'il est possible de faire de l'agriculture de conservation des sols dans certaines conditions, sur certains terroirs, en se passant complètement de glyphosate. Mais il faut soutenir la recherche et il faut soutenir les agriculteurs et les agricultrices qui font des essais, parce qu'ils n'y sont pas encore, et ils n'y sont pas encore sur toutes les configurations.
Pierre Veil, justement, la santé des sols, le sol, les sols, organes vivants de la planète, est-ce qu'on peut dire que les pesticides ont malade défié les sols, enfin, les ont rendus vraiment complètement malades au même titre qu'on empoisonne les corps humains, par exemple?
Ils y ont participé. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui ont rendu les sols malades. Il y a les monocultures, il y a la mécanisation, il y a l'excès de labour et les pesticides, particulièrement les fongicides. Alors, moi, j'ai une position là-dessus, c'est comme les médicaments. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut être en bonne santé sans prendre du tout de médicaments? C'est quand même compliqué. Je crois qu'on a besoin du bio qui utilise des pesticides, d'ailleurs, mais pas des pesticides de synthèse. On peut en consommer beaucoup moins. On peut faire en sorte que si on pouvait supprimer les fongicides, ce serait bien, parce que s'il n'y a pas de champignons dans les sols, là, ça devient dramatique pour la vie du sol. Si on peut réduire, je connais Sarah Singla et l'agriculture de conservation des sols, ces gens-là disent, et puis sans doute à juste titre, vaut mieux un petit peu du glyphosate qu'un mauvais labour ou qu'un labour trop répété. Je pense qu'ils n'ont pas complètement tort. Donc il s'agit d'avoir un niveau type bio où effectivement on supprime tout, mais on a besoin d'un accès au marché très privilégié. Un cap, moi je passe beaucoup de temps maintenant dans Bio Blanqueur avec des gens qui font du bio et du bleu blanqueur, c'est le cap. Mais on sait qu'on ne va pas y arriver tout de suite. Et que ce soit pour les gens ou pour les sols, il faut passer toutes les étapes. Et si on veut avoir des impacts, il faut quand même des trucs de masse. Ouais. Donc il faut réduire, et c'est tout à fait possible de réduire.
Qu'est-ce que c'est que bleu blanqueur, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Veil?
Oh, c'est un truc formidable.
Mais c'est quoi? Parce qu'on ne connaît pas forcément.
Comment ça? J'ai créé ça il y a 25 ans. C'était une association, maintenant c'est une SKIC. Pour la petite histoire, ça surprend toujours quand je le dis. C'est des produits avec un label, qui est le seul label au monde qui a une obligation de résultats et pas une obligation de moyens. C'est-à-dire que je dis pas mon produit est meilleur parce que j'ai décidé qu'il était meilleur, mais mon produit est meilleur parce qu'il a une densité nutritionnelle. Il y a plus d'antioxydants dans les tomates, il y a plus d'oméga 3 dans les œufs, il y a moins de graisse saturée dans le lait. Parce que les modes de production, c'est très important ça dans cette logique de santé unique, parce que si on veut que ça se développe, si on veut que cette agroécologie, cet autre monde soit possible, il faut vraiment que tout le monde y retrouve son compte. Et le producteur et le consommateur, les gens dépensent pas beaucoup plus pour la planète, mais ils peuvent dépenser plus pour le goût et la santé et la densité nutritionnelle et sensorielle des aliments. Ça, c'est un truc qui est important.
On va donc découvrir avec vous comment certains font autrement, parce que c'est ça qui nous intéresse, ce monde sans pesticides sur le terrain. Ils y arrivent, ce sont des alternatives qui pourraient peut-être devenir la norme. Pourquoi pas? En tout cas, vous en avez été les témoins. On en discute aujourd'hui dans cette Terre au Carré.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Ça fait quasi 20 ans que je fais la ferme. Il y a des matins, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de pas gagner ma vie, de ces contradictions. Et ça me prend la tête. Moi, je suis prêt à avoir une agriculture la plus vertueuse possible. C'est plutôt ma philosophie. Donc moi, c'est mon boulot d'avancer dans ce sens-là. C'est pas possible que nous, on fasse des efforts et qu'on se fasse matraquer par des produits qui sont importés, qui ne correspondent pas du tout à nos standards. Et en plus, avec des gens, on ne pourra jamais être compétitif. L'agriculture française, quoi que certains peuvent en dire, on n'a rien à voir avec l'agriculture ukrainienne ou brésilienne ou du Canada, quoi.
Il s'appelle Jean-Baptiste Verveilly, agriculteur depuis 2007. Il cultive des céréales avec des méthodes agroécologiques à Cézanne, dans la Marne. Pierre Veil et Pierre Girard sont avec nous. Pierre Veil, ingénieur agronome et l'auteur d'un livre chez Actes Sud, s'appelle Une seule santé, enquête sur les sols où nos maladies prennent racine. Et Pierre Girard, donc journaliste, vous publiez Au rythme de la terre, nouvelle voie pour cultiver le vivant. C'est une grande enquête que vous avez menée pour Jean-Claude Lattès sur le terrain, en allant rencontrer justement à la fois des paysans, des paysannes, mais également des scientifiques. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Pierre Girard, que l'agriculture française n'a rien à voir avec les autres agricultures? Vous qui avez une vision un peu européenne aussi des choses.
Absolument, elle n'a vraiment rien à voir. Moi, je vais voir dans... Enfin, déjà, il y a une réalité, une histoire qui est très particulière en France, par exemple, par rapport à un pays comme l'Allemagne, où les parcelles sont beaucoup plus grandes, déjà, où l'industrie a vraiment posé sa marque de fabrique sur les fermes. En France, on a des structures qui sont plus petites, plus hétérogènes, qui sont plus agroécologiques dans leur essence, c'est-à-dire qu'ils font attention aux vivants et qui font attention au sol dans l'histoire, et qui en ce moment s'opposent à des modèles non seulement en Europe, mais aussi à de la concurrence déloyale qui pourrait arriver de pays comme ceux du Mercosur. C'est un sujet très actuel et je ressens vraiment sur ces fermes la détresse des pionniers et des pionnières de l'agroécologie qui dépensent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi et beaucoup de temps pour changer, pour faire la transition écologique et qui sentent qu'il n'y a plus beaucoup de cohérence dans les politiques actuellement.
Pierre Veil, est-ce qu'il y a une agriculture française? Parce qu'on a quand même aussi des grandes exploitations ici en France.
Oui, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Et moi, c'est vraiment ma mission, celle que je me donne. Pour une fois, je vais être sérieux. On a besoin d'offrir un marché, d'être le débouché de ces gens-là, d'expliquer. Quand tout à l'heure, vous racontiez l'histoire de Lucien, c'était une histoire de santé des vaches, mais que la santé des vaches, elle est liée à la santé des sols. Et ces gens qui travaillent mieux leur terre, qui travaillent mieux avec leurs troupeaux, ils méritent une sortie marché avec un bonus. C'est ce que moi, j'ai réussi à faire ça avec Bleu Blanc-Cœur. Je suis assez content parce que ça s'est fait à une grande échelle quand même, à une échelle importante, et il faut continuer.
Sauf que c'est pas ce que fait la PAC, concrètement.
Non, mais
d'encourager précisément ceux qui auraient des pratiques plus vertueuses.
Alors c'est un autre sujet, c'est le sujet de dire à quel moment les mesures européennes ou étatiques doivent se substituer au désir du mangeur, du consommateur, de manger mieux. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, mais avec Bleu Blanc-Cœur, on a quand même réussi dans certains supermarchés à ce que tous les laits, tous les soit Bleu Blanc-Cœur. C'est pas possible avec des trucs genre label rouge qui par définition sont plus chers, mais on arrive à mettre ça à disposition de tout le monde et ça marche parce qu'on arrive à communiquer sur un bénéfice sensoriel. D'abord le mangeur il choisit avec son nez, avec ses
papilles.
Ses papilles, voilà. Et densité nutritionnelle égale souvent densité sensorielle. Et on a cette mission-là, on y arrive, faut continuer, mais si on veut que cette spécificité de l'agriculture française demeure, on a besoin d'assurer un marché. Parce que s'il n'y a pas de différence entre une tomate française et une tomate espagnole, on achètera la tomate espagnole, si elle est moins chère. Or, on a démontré que certaines productions de tomates sur sol vivant, etc., on a 30% d'antioxydants en plus, on a plus de goût, etc. Donc on a besoin de montrer ça, de communiquer ça et d'assurer un débouché pour tous ces gens qui font des efforts terribles.
Pierre Girard, comment vous expliquez que malgré les alertes à répétition, les ventes de pesticides en France ne baissent pas significativement? Au contraire, notre pays est un des plus grands utilisateurs de produits phytosanitaires. C'est quoi? C'est un problème d'outils, de volonté politique, d'aveuglement collectif? C'est quoi l'explication?
Il y a essentiellement un problème macro, un problème de volonté politique qui n'accompagne plus. Moi, j'ai remarqué vraiment une bascule il y a deux ans, un peu plus de deux ans, dans l'année 2023, au niveau politique, au niveau des signaux politiques qui étaient envoyés en direction de l'agriculture. Il y a plus au signal aussi clair qu'il y avait dans les 10 dernières années. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ce sujet. Je ressentais ce qu'on a entendu dans le pacte vert avec ses objectifs de réduction des pesticides. Il n'y a plus ces objectifs politiques. Et ensuite, il y a aussi peut-être un problème d'enseignement agricole qui ne change pas assez vite. Les générations sont en train de se renouveler et on a besoin d'un enseignement agricole qui apprenne, et je le sens, ça commence à changer, mais ça prend du temps dans les programmes, qui apprennent l'agroécologie aux futures générations d'agriculteurs et d'agricultrices.
Pierre Veil, vous le sentez ce changement en cours ou pas, vous ?
Oui, je le sens, le monde agricole, il bouge. Mais pourquoi ça ne marche pas, le plan éco-phyto? Je vais vous faire part, je suis à l'Académie d'agriculture et on recevait une dame qui avait fait sa thèse là-dessus. Pourquoi ça ne marche pas? Et elle disait, moi ça me parlait beaucoup, elle disait en fait, il y a plein d'innovations. Il y a l'INRA qui vient de sortir, je crois aujourd'hui, un fascicule sur comment remplacer les pesticides, c'est possible. Les solutions techniques existent. Il y a beaucoup d'innovations. Ce qui a manqué, c'est l'innovation organisationnelle, parce que ça concerne tout le monde. C'est ce que disait la jeune femme, mais moi ça me parlait. Parce que, en fait, les jeux de rôle habituels avec les représentants des interpros, des COP, des ONG, etc., personne ne se donne un objectif commun. Or, il faut se donner un objectif commun pour avancer. Je vais reparler de Bleu Blanc-Cœur, parce que la façon dont on a organisé ça, la gouvernance, c'était vraiment du bonheur, parce que tu mets côte à côte des médecins, des scientifiques, des consommateurs, des paysans. Au bout d'un moment, les gens disent « nous ». Au début, ils disent pas « nous », ils disent « je ». Et puis quand tu donnes des objectifs communs en matière d'environnement et de santé, et je pense que c'est ce qui manque sur ces trucs-là. Il y a des jeux de rôle, il y a des discussions, mais l'innovation organisationnelle de base pour avancer ensemble, pour sauver l'agriculture française et pour réduire les pesticides, elle n'est pas encore là, mais il faut que ça vienne.
Pierre Girard, on va écouter un extrait de votre chaîne YouTube avec Patrick Larère. Il est producteur de carottes dans les Landes et vous l'avez rencontré il y a quelques temps.
On faisait déjà pas mal d'efforts pour essayer de au niveau environnemental, sur nos cultures. Et on s'est rendu compte que le bio était mieux valorisé.
Le bio vient rémunérer le risque, en fait.
Tout ce qui est service environnemental, social aussi.
En 2004, on vendait nos carottes bio. C'était 10 fois le prix de la carotte conventionnelle, en fait. Et du coup, c'est ce qui nous a amené à faire la carotte bio. On a démarré dans les premiers, sur des endroits après de la forêt, après des pins, notamment sur des zones de tempête. Et on s'est dit, ces zones-là, il n'y a jamais eu d'agriculture. Napoléon avait planté des pins, mais avant, bon voilà, il n'y avait rien. Il n'y a jamais eu de pesticides, il n'y a jamais eu rien. Et du coup, on s'est dit, c'est cool parce qu'on peut démarrer en bio direct, c'est propre. On est sur une terre où il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a rien dedans, en fait. C'était bio depuis Jésus-Christ.
Le slogan est bon, c'est bio depuis Jésus-Christ, ça en jette. Il s'appelle Patrick Larère, 800 hectares de carottes bio, c'est ça, dans les Landes, zéro résidu de pesticides. Et il s'est associé, c'est ça, en fait, c'est des fermes avec ses frères.
Exactement, c'est toute une famille, donc ils ont hérité des terres de leur père, qui s'est installé dans les Landes et qui a commencé à cultiver d'abord des carottes et puis des choux aussi, pas mal de légumes différents, sur des terres qui sont très sableuses, donc c'est particulier. Moi qui ai l'habitude de toucher la terre des fermes que je visite, elle était très 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 spéciale, parce que donc on a du sable comme sur la plage quasiment.
Mais les carottes adorent le sable, non ?
Et les carottes adorent le sable, puisqu'elles poussent tout droit, sans obstacle. Et Patrick, donc, non seulement il a des expressions qui ne sont pas à couper au couteau, mais en plus, il utilise des outils pour faire des carottes bio qui sont assez spectaculaires, et ça c'était vraiment quelque chose qui m'a impressionné. Il utilise notamment un nouveau tracteur équipé d'intelligence artificielle qui va détecter les mauvaises herbes. Donc là, plus de glyphosate autour de ces carottes. Ouais. Ça prouve que c'est possible. Mais il utilise une intelligence artificielle qui coûte pour le moment extrêmement cher. C'est là toute la question aussi du coût. Pour repérer, donc, c'est une caméra qui filme en temps réel les champs de carottes. C'est des pousses de carottes qui ont 1 cm de haut, pas plus que ça. Mais cette caméra, elle filme autour des carottes et elle repère toutes les mauvaises herbes. Toutes petites, et elle les brûle avec un laser. Et du coup, on désherbe les carottes avec une intelligence artificielle.
Vous en pensez quoi, Pierre Veil, de cette technologie au cœur d'un monde qui, quand on parle de bio, on ne s'attend pas franchement à l'associer avec ce type d'outils.
C'est de la science-fiction.
Ouais,
mais si on veut que le monde change, il faut ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des industriels qui s'y mettent. Moi, je vais toujours voir les outils de traitement du sol et les outils de semis. Quand on dit qu'il faut, par exemple, semer, alors, l'histoire des robots de désherbage, je connais, j'ai vu ça. J'ai vu aussi, maintenant, il y a beaucoup de techniques de semis avec plusieurs trimis, où tu peux semer des plantes compagnes. Tu n'es pas obligé de semer que du blé, tu sèmes du blé avec 3-4 autres. Il y a des techniques de séparation des grains quand tu es à la ferme, de trieur. Mais il faut que tout ça va venir. Je suis assez optimiste là-dessus, parce que si les gens s'y mettent, c'est qu'il y a des retours sur investissement.
Sauf que, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec un monde qu'on voudrait justement un peu délaissé de cette technologie, de ces coûts prohibitifs aussi, de ces outils.
Il faut préciser effectivement que Patrick Larère, donc il a 800 hectares, donc c'est absolument colossal. Cette machine, elle coûte 1 million d'euros aujourd'hui, donc c'est vraiment énorme. Je vous laisse imaginer les fermes qui peuvent se permettre d'acheter un outil à 1 million d'euros. À côté de ça, il y a d'autres possibilités d'utiliser, par exemple, je pense à l'Atelier Paysan, qui fait des plans open source, qui sont ouverts à des plus petites structures, et qui permettent aussi d'utiliser de la mécanique, de la mécanisation, qui soit beaucoup plus abordable pour les toutes petites fermes. Donc il y a des perspectives, là on parle d'un exemple qui est très extrême, celui de cette intelligence artificielle chez Patrick Larère, mais il y a des techniques qui sont adaptées à d'autres physionomies de fermes.
Pierre Veil, dans votre livre, vous évoquez l'idée d'un revenu de transition écologique pour les agriculteurs. Ça, c'est un des freins majeurs aujourd'hui, précisément, le fait de ne pas soutenir financièrement les paysans et les paysannes.
Il y a des dispositifs qui existent. Les agriculteurs disent toujours qu'ils veulent vivre, ils veulent pas vivre de subventions, qu'ils veulent vivre du juste prix de leurs produits. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé là-dessus d'abord. Mais il y a des méthodes, il y a des paiements pour services environnementaux, il y a des choses comme ça qui existent. C'est toujours compliqué. Mmh. C'est un peu difficile d'avoir un revenu de transition. Moi, je défends surtout que on parlait de bleu-blanc-cœur tout à l'heure, comme ça fait 25 ans que ça existe. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais on l'a calculé sur les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est une association, hein, ça va pas dans nos poches, tout ça.
2 milliards d'euros?
Oui, tous les ans. Plus que ça en France, puis ça existe dans d'autres pays. C'est gros, hein. C'est gros. Mais je le dis avec le sourire parce que ça veut dire que ça peut marcher. Ça peut marcher. Et sur cet argent-là, un producteur de lait bleu-blanc-cœur, il va avoir une prime de 30 euros des 1000 litres. C'est peut-être pas énorme, comme aujourd'hui, le litre de lait, il est payé plutôt à 550 euros. Mais c'était déjà 30 euros quand il était payé 300 euros les 1000 litres. C'était bien. Ça permet de s'engager. Ça permet de lisser les risques. Un éleveur de porc aussi, ça lui coûte 3 euros de plus de faire un porc bleu-blanc-cœur parce que faut pas d'huile de palme, faut pas de soja d'un porc, faut du lin, etc.
Pierre, pardon, vous parlez du litre de lait à 500 euros, je comprends pas.
Les 1000 litres. Oui, en élevage, on parle de 1000 litres de lait. Donc, il faut, ça veut dire que ces bonus-là, ça permet aux gens de se lancer. Alors, en ce moment, c'est compliqué, parce qu'en ce moment, on manque de tout. On manque de poulet, on manque d'œufs, on manque de tout. Donc, les prix ont tellement monté que ces revenus-là, il y a beaucoup de gens, mais c'est pareil en bio, quoi. Il y a des gens qui se déconvertissent, le mot n'est pas très joli, parce qu'ils ont les surcoûts du bio et ils n'ont pas le revenu qui va avec dans certaines productions.
Ouais.
Donc il faudrait des fonds, il y a des choses à imaginer, mais c'est possible.
Pierre Gérard, vous avez rencontré beaucoup de paysans et paysannes qui justement serraient des dents, malgré leur conviction de vouloir faire une agriculture, une autre agriculture.
Exactement, ouais. J'ai rencontré pas mal, justement depuis 2 ans, avec ces signaux qui sont contraires du côté de la politique. On est en train de renégocier la PAC, la future PAC, en ce moment avec justement des signaux pas très clairs en faveur de la bio, en faveur de l'agroécologie. On est en train de parler de cet accord de libre-échange, je le répète, avec le Mercosur, où il y a plus d'une centaine de principes actifs, donc de pesticides qui sont autorisés dans les pays du Mercosur, qui sont interdits en France, et donc ces produits qui respectent pas les mêmes normes que celles qu'on impose aux fermes françaises, qui vont vraiment inonder le marché européen et français avec des produits qui sont pas conformes à nos normes sanitaires et nos normes environnementales. Et là, je vois, par exemple, Margot et Aymeric sur leur ferme des Hauts-de-France, qui ont converti la moitié de la ferme familiale en bio et qui comptaient convertir la totalité de la ferme familiale, qui se demandent s'ils vont continuer ou même s'ils vont devoir déconvertir parce que leurs produits ne trouvent plus d'acheteurs.
Parce que Pierre Veil, on parlait de l'acétamipride tout à l'heure, donc interdit en France, utilisé ailleurs en Europe, mais on reçoit en France des produits qui ont été traités à l'acétamipride. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement épargné par ce produit phytosanitaire. Hein.
Oui, c'est ce qu'énerve tous les agriculteurs quand on en parle.
Tout à fait. Et il n'y a absolument aucun... si on reparle des pays du Mercosur, il n'y a absolument aucun mécanisme qui est capable de
fermer les portes
et de contrôler ces produits avant qu'ils partent d'Amérique du Sud. On parle de centaines de milliers de tonnes de produits qui vont arriver sur le marché français.
Pierre Veil et Pierre Girard, vous êtes nos invités. Un monde sans pesticides est-il possible? C'est le dossier de l'émission.
France Inter. La terre au carré.
Pour la famille Coudert, l'offre de produits en agriculture biologique est devenue trop importante par rapport à la demande.
Il faudrait relancer la consommation, quoi. Finalement, jusque-là, on a aidé pour que les producteurs passent en bio. Peut-être qu'il aurait fallu plutôt en fait aider pour que les consommateurs achètent du bio, quoi.
Depuis 3 ans, la consommation de produits bio en France est en baisse. Agriculteurs ou consommateurs, chacun tente de vivre et de se nourrir en fonction de ses moyens.
Ce reportage date de février dernier sur ICI Occitanie et depuis, les ventes de produits bio seraient reparties à la hausse en France après effectivement trois années extrêmement difficiles. Pierre Veil et Pierre Girard sont nos invités pour imaginer un monde sans pesticides. Pierre Veil, relancer la consommation du bio, comment on peut faire justement sans alourdir trop non plus la facture et le porte-monnaie des consommateurs et consommatrices?
C'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais le système qui est en place, c'est un système d'alimentation à deux vitesses. Et il faut absolument arrêter, je ne vais pas me faire que des copains en disant ça, mais il faut absolument arrêter de dire il y a le bio et le reste. Parce qu'on a besoin de monter en gamme partout. On a absolument besoin du bio et on a besoin de subventionner les producteurs bio pour qu'ils continuent à exister et faire ce monde sans pesticides. Mais ouais, c'est aussi compliqué que nous se soigner sans médicaments. Donc il faut comprendre que c'est des pionniers. C'est un front pionnier où ils font beaucoup de choses intéressantes. Ça a été des pionniers dans la diversification des cultures, dans plein de choses. Mais il y a tous les autres. Et le bio, je ne sais pas quel pourcentage, ça ne doit pas faire 10% de la consommation. Et les 90 autres %, qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense qu'on a vraiment besoin, surtout avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'agriculture, culture française d'aujourd'hui, on a besoin aussi de monter en gamme, et d'une terrible montée en gamme. Moi, je dis toujours que le blanc-cœur, un jour, ça disparaîtra, parce que ce sera la norme. Ce sera la norme de mieux produire.
C'est votre mouvement, on rappelle pour ceux qui nous rejoignent.
Oui. Mais qui est suffisamment... dans les productions animales, c'est aussi important que le bio. C'est même plus important dans certaines productions, moins dans d'autres. C'est très peu connu, parce que ça s'est fait à l'huile de coude et avec un modèle économique qui était très compliqué.
C'est quoi le principe en deux mots pour ceux qui ne connaîtraient pas, encore une fois?
Mais c'est de poser d'abord une obligation de résultat sur la densité nutritionnelle qui est aussi on analyse le produit et on dit s'il a été bien produit. Un œuf bleu blanc-cœur, il a par exemple un rapport oméga 6 sur oméga 3 de 5 maxi, ce qui est bien nutritionnellement, ouais, versus un rapport de 20 ou 30 quand c'est un œuf standard. Après, la façon dont le producteur choisit de mettre plus de luzerne, moins de maïs, moins de soja, ou plus de lin, ou plus de lupin, c'est son choix. Mais il y a une obligation de résultat.
Et c'est pas bio forcément ?
C'est pas bio forcément. Il y a une petite partie qui est bio, mais c'est pas bio forcément.
Pierre Girard.
Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites sur le principe de la montée en gamme. J'aimerais juste quand même redire une chose qu'on entend trop peu à mon sens, c'est que la bio, elle est pas réservé à une clientèle aisée, justement. Je repense, par exemple, à une ferme que j'ai vue récemment en Bretagne, peut-être une ferme qui peut ressembler aussi, à certains égards, à celle que vous avez dans le réseau Bleu Blanc-Cœur, où le couple donc, de Maud et Franck, qui sont des éleveurs laitiers bio en bovin, ils ont décidé, au fil des années, de faire une conversion, une resaisonnalisation du lait. Puisqu'on a oublié, mais il y a une saison du lait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une saison où on mangeait des produits laitiers, une saison où on n'en mangeait pas.
Et qu'on a complètement oublié, évidemment.
Qu'on a complètement oublié. Eux, ils ont décidé, parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils ont envie d'avoir une vie à côté de la ferme, de resaisonnaliser, donc d'avoir 2-3 mois où ils bossaient comme des fous, et le reste de l'année où ils pouvaient s'occuper de leurs activités, leurs loisirs, leurs enfants, etc. Et en faisant ça, ils sont en bio et ils ont réduit, en passant du conventionnel au bio saisonnalisé, de 73 000 euros de charges à 9 000 euros aujourd'hui. Donc, quand on se dit ça, on remarque que la bio, au final, elle n'est pas forcément plus chère. Ce qui coûte cher dans la bio, c'est la transition.
C'est pour les producteurs, là.
C'est les producteurs,
oui.
C'est les producteurs. Ce qui leur coûte cher aux producteurs, c'est la transition, et c'est finalement aussi la sécurité quand il arrive un pépin. Parce que quand on est en conventionnel, on peut utiliser tel ou tel produit de manière assez automatique, on va pouvoir faire un barrage aux pathologies, aux maladies, etc., aux pépins. Quand on est en bio, on a une palette d'outils qui est un petit peu plus restreinte. Donc il va falloir faire avec les moyens qu'on a. Et donc parfois, on perd du lait. En l'occurrence, eux, ils ont une production de 20% moins de lait depuis qu'ils ont fait cette transition. Et donc c'est ça qu'il faut soutenir. Il faut soutenir ces pertes et les aider dans la transition.
Et pour le consommateur, alors, pour aussi s'y retrouver sans être obligé de payer plus cher. Parce qu'il y a aussi une injustice sociale très forte sur l'accès à l'alimentation.
Et pour les consommateurs, en réalité, quand on enlève la grande distribution, on se rend compte que les marges, elles sont plus importantes sur les produits bio que sur les produits conventionnels. Mmh. Et ça fait en grande partie le fait que les produits bio sont fondamentalement plus chers que ceux du conventionnel. En réalité, si on est en circuit court...
Alors justement, parce que vous citez Zoé de Vulpian, par exemple, ingénieur agronome chez les bergers, qui accompagne l'ouverture de magasins de ferme en circuit court. Ça, du coup, les consommateurs s'y retrouvent, Pierre Girard, sur l'accès aux produits?
Exactement. Quand on est dans des circuits courts comme celui que prône Zoé chez les bergers ou dans les AMAP, etc., on se rend compte que les produits sont au même prix en grande distribution, en conventionnel. On enlève finalement cette couche de grande distribution, cet intermédiaire supplémentaire qui va se servir au passage. Et donc, le prix qu'on paye en plus sur la bio aujourd'hui, souvent en supermarché ou en hypermarché, c'est pas le prix qui va aller dans la poche de la ferme bio, c'est le prix qui va aller chez la chaîne de supermarché.
Pierre Veil, vous dites que nos maladies prennent racine dans les sols que nous avons abîmés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien biologique, mais aussi du coup très symbolique, hein, entre la dégradation des sols et celle de nos corps humains ?
Mais c'est pas de la philosophie, hein. Il y a une biologie derrière, c'est ce que je fais à l'université de Rennes. On analyse ce qui se passe dans les sols, on analyse ce qui se passe dans les fruits, et après on fait des études cliniques. En fait, quand il y a une vie dans le sol, il faut comprendre qu'il y a plein, il y a des vers de terre, mais il y a aussi, je crois, la moitié des espèces qu'on connaît, animales, vivent dans le sol. On les voit pas, mais ça produit tout un tas de choses, et ça produit tout un tas de petits nutriments qui passent aux racines. Il y a des acides aminés qui viennent des champignons, qui ont un effet antioxydant. Il y a tout un tas de petites choses qui passent et qui vont renforcer la densité nutritionnelle. Et cette densité nutritionnelle, c'est essentiellement deux axes. Un qui est un axe maîtrise de l'inflammation, l'autre qui est un axe maîtrise de l'oxydation. Les biochimistes disent que la vie, c'est un combat perdu d'avance contre l'oxydation, ce qui est vrai, parce que quand on respire, la synthèse chlorophyllienne, c'est une réduction. Après, c'est une oxydation. Et quand on respire, on s'oxyde. Quand on stresse, on s'oxyde. Il y a un stress du sol, il y a un stress des plantes. Quand on fait du sport, on s'oxyde et il faut des antioxydants. Nous, on en fabrique un peu, mais les végétaux en fabriquent beaucoup. Quand les animaux mangent des végétaux riches en antioxydants, ils rendent ça encore plus sympathique, plus facile à utiliser. Et cette richesse, cette vie du sol passe dans les plantes, ou passe chez les animaux qui mangent les plantes, ou passe directement chez l'homme, et on est très dépendant de tout ça. Et ça, moi, ça a été mon bonheur de passer de ce concept que j'avais quelque part dans un coin de tête, qui était un concept un peu intuitif ou philosophique, à quelque chose de mesuré. On a fait 8 études cliniques.
Donc c'est validé aujourd'hui par les études scientifiques.
Ah oui, elles sont toutes publiées. On mesure, quand les gens mangent exactement la même chose, on mesure des impacts sur la composition des membranes des globules rouges, sur l'insulinémie quand c'est des diabétiques, sur la reprise de poids quand c'est des volontaires obèses. C'est un peu compliqué, on n'a pas toujours le droit d'en parler parce que le monde est... Mais c'est publié
pourtant,
sur tous les sites scientifiques.
Pourtant, les consommateurs et consommatrices sont très sensibles à ce type d'argument aujourd'hui. Le facteur santé derrière l'alimentation, derrière le choix de l'alimentation, il est majeur quand même.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on le dise. Parce que c'est triste, mais on s'est battu quand même avec beaucoup de gens de tous les côtés pour avoir le droit de dire quelque chose qui est complètement admis. C'est plus comme Étienne Klein, il ne faut pas confondre la recherche et la science. La science, c'est le consensus. La recherche, par nature, il y a le doute, il y a la contradiction, etc. 8 études cliniques avec des résultats positifs, significatifs, mesurés, c'est plus de la recherche, c'est de la science. Le mode de production et la vie du sol et ce qui se passe dans les champs et dans les auges a un impact sur la santé de l'homme, c'est clair.
Il y a deux mots sur lesquels je voudrais vous faire réagir pour terminer. Et pour conclure, le mot de diversité, Pierre Veil, c'est absolument essentiel dans ce dossier aujourd'hui pour essayer de se passer des pesticides.
Absolument, oui, clairement. Diversité dans les sols, diversité dans les plantes, mais à tous les niveaux. C'est des espèces différentes, c'est une grande variété biologique, il ne faut pas qu'on la perde. C'est aussi des cultures d'hiver, des cultures de printemps, il faut des sols couverts toute l'année, des plantes compagnes, il y a plein de choses, mais il faut de la diversité, d'abord dans les sols, ensuite dans les auges. Nourrir des animaux, c'était mon début avec du maïs et du soja, c'est bien, ça fait du lait, ça fait de la viande, mais ça ne fait pas des calories très pleines.
Et un autre rapport au temps, peut-être aussi, Pierre Girard, si on veut tenter de se passer des pesticides, c'est aussi ça qu'il faut essayer de mettre en place, hein.
Les scientifiques estiment qu'il faudrait 5 ans pour arriver à une forme d'agriculture biologique, de conservation des sols. Donc même quand on fait attention au sol, on peut aussi faire attention aux vivants en même temps, si on met le paquet sur la recherche. Après, je parlais avant de cet exemple dans les Hauts-de-France avec Margot et Aymeric, qui sont en train de serrer les dents par rapport à leur conversion en bio. Il faut savoir, ils m'ont raconté qu'eux, ils pensaient leur modèle agricole sur 15 ans. Donc quand on se projette à l'horizon 15 ans, c'est extrêmement long. Les décisions qui sont prises aujourd'hui, ce qu'ils vont semer cet automne, aura des conséquences sur ce qu'ils vont faire dans 15 ans. Donc c'est extrêmement important de penser le temps long quand on parle d'agriculture.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus au micro de la Terre au Carré.
Merci.
Je renvoie sur vos ouvrages respectifs. Pierre Veil, donc Une seule santé, enquête sur les sols où nos maladies prennent racine, c'est chez Actes Sud. Et Pierre Girard, votre grande enquête donc dans plus de 200 fermes s'appelle Au rythme de la terre, nouvelle voie pour cultiver le vivant, et c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.